Hier matin, nous avons vu ce que c'est qu'une église locale, selon les Écritures. Et on a réfléchi à la manière dont on pourrait le vivre aujourd'hui. Ce matin, c'est dimanche, on vient de chanter de beaux chants de louanges. Alors, j'aimerais plutôt rester avec un seul texte biblique pour nous baser sur la parole de Dieu, pour voir tout un développement. C'est un des plus beaux chapitres de toute la Bible. C'est Éphésiens, chapitre 2. Donc, si vous pouvez le chercher. J'ai dit des fois que l'UNESCO devrait inscrire ce chapitre sur le patrimoine universel de l'humanité, tellement il est beau. Donc, on va voir tout le chapitre, mais je vais commencer au milieu. Étrangement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une première partie de ce chapitre, il y a une deuxième partie de ce chapitre, et il y a un petit verset qui fait le lien au milieu. Donc, on va commencer un peu au milieu pour mieux comprendre. Et c'est le verset 10. Le verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et j'aimerais simplement souligner deux aspects de ce verset, on y reviendra. Mais d'abord, nous sommes son ouvrage. Donc c'est l'Église, et nous, c'est chrétiens. Donc nous sommes son ouvrage. Le mot pour ouvrage en grec, c'est poïma. Et si vous en sentez un petit peu, poïma, vous n'avez pas tort, hein, c'est le mot poème que nous avons à partir de ce verset. Ça veut dire que c'est un ouvrage d'art que le Seigneur a fait, son Église, son peuple, c'est son ouvrage. On pourrait presque dire son chef-d'œuvre. Ce qui fait que, en voyageant partout dans le monde, vous pouvez regarder les plus belles montagnes, les plus belles forêts, la neige, le soleil, la mer, l'océan. Et on va dire, bon, ça c'est merveilleux. Mais si vous lui regardez le chef-d'œuvre de Dieu, il suffit qu'on se regarde les uns les autres. Ça c'est le chef-d'œuvre de Dieu, son peuple. Nous sommes son chef-d'œuvre, son ouvrage. Créé en Jésus-Christ. Et je souligne donc ce mot aussi, créé. Dans la Bible, quand on a le mot créé, alors là déjà au début de la Genèse, créé, c'est toujours, presque toujours dans la Bible, une ou deux exceptions, mais c'est presque toujours Dieu qui crée. Et quand Dieu crée, il crée à partir de rien. Donc quand il a créé l'univers, il n'a pas utilisé quelque chose qui existait avant. Si moi, par exemple, je crée un meuble à la maison, on va dans un magasin, on achète le bois, enfin, souvent c'est tout préparé, je ne sais pas si vous avez Ikea ici, bon, voilà, bon. Tout est là, et je mets ensemble, j'ai créé un meuble, mais je n'ai rien créé du tout. J'ai mis ensemble ce qui existait déjà. Mais quand Dieu a créé l'univers, c'était à partir de rien, il a tout imaginé à partir de rien. Et quand on dit qu'il nous a créés, ah, c'est à partir de rien. Ce n'est pas à partir de ce qu'on était avant. Il a créé quelque chose d'entièrement nouvel. 2 Corinthiens 5, 17, un verset que l'on cite assez souvent, mais revisitons ce verset à la lumière de ce que je viens de dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc c'est Dieu qui l'a créé à partir de rien. Ça c'est 2 Corinthiens 5, 17. Un autre verset, également sous la plume de Paul, c'est dans Galates 6, et le verset 15, et il dit « Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Donc ça c'est Galates 6 et le verset 15. Donc à plusieurs reprises, on a cette notion que non seulement l'Église est son chef-d'œuvre, mais il a créé avec nous, mais à partir de rien. Ce n'est pas parce qu'il Il n'a pas regardé sur la terre pour dire quels sont les meilleurs êtres humains qui existent. Et avec ceux-là, je vais faire mon église. Peut-être que si c'était comme ça, on ne ferait pas partie. Non, il a pris les êtres humains selon sa bonne volonté. Il a créé son église. C'était vraiment quelque chose qu'il a fait, je dirais, à partir de rien. Voilà, donc ça c'est le verset, on va dire, passerelle au milieu de ce texte. Donc, on va regarder dans ce texte en deux parties. Ce qui est avant le verset 10, et puis après ce qui vient après le verset 10. Alors, regardons donc ce qui est avant. Et je vais lire ce chapitre 2, donc de 1, du verset 1 jusqu'au verset 9. « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce texte est absolument extraordinaire. C'est l'analyse de Dieu de la condition humaine. Et il commence avec trois mots assez extraordinaires. Vous étiez morts. Alors, c'est quand même... Vous êtes morts, oui. Vous serez morts, oui, mais vous étiez morts. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il faut remonter jusqu'au début de la Bible, quand Dieu avait dit à Adam et à Ève que s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, ils mourraient. Et cette mort est d'abord et surtout, même s'il y a des conséquences physiques, mais c'est d'abord et surtout une mort spirituelle, parce que c'était la mort causée par la rupture entre Dieu qui est la source de la vie et nous. Donc ça veut dire que quand un athée dit « je ne connais pas Dieu », bah, c'est sûr, il ne connaît pas Dieu, parce qu'il est privé de Dieu. C'est une évidence, on ne peut pas le connaître. Mais nous étions morts, et comment? Par nos offenses et par nos péchés, qui, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Paul était de ce nombre, les apôtres étaient de ce nombre. Nous sommes tous, quelque part, de ce nombre. À un certain moment, il faut que chaque être humain passe de la mort à la vie, à un certain moment de sa vie. Pour certaines personnes, ils connaissent le jour et l'heure exacte. Ils ont dit oui à Dieu, ils sont convertis. D'autres, c'est mon cas, je connais le mois, parce que donc, je me suis converti avec le GBU. J'étais en première année de fac, il y avait une table de livres, voilà. Je me suis appris cette table, et voilà. Et le reste, c'est l'histoire. Bon, mais petit à petit, je commence à comprendre. Donc, je sais qu'au début du mois d'octobre, je n'étais pas chrétien. Je sais qu'à la fin, je l'étais. Donc, à un certain moment, je suis passé de la mort à la vie. D'autres personnes ne savent pas du tout. Mais même si on a grandi dans une vie, dans une famille chrétienne, en venant dans le monde, j'en suis convaincu, on est mort spirituellement. À un certain moment, il faut dire oui. Peut-être c'était tout jeune pour certains, au point où ils ne s'en souviennent pas. Donc voilà, dans la famille de Dieu, il y a un peu de tout. Il y en a qui ont fait les 400 coups, comme on dit, qui ont eu vraiment une vie de péché, ils sont convertis. D'autres, une vie, on va dire, beaucoup plus rangée, comme l'apôtre Paul, qui a dit, devant la loi, il était irréprochable. Mais il a dit ailleurs qu'il était le plus grand des pécheurs. Mais pourquoi ? Parce que chaque personne en venant au monde n'est pas chrétien, il faut le devenir, parce que chacun hérite de cette situation de mort spirituelle. Et il y a toute une série d'expressions au verset 2 qui l'explique. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Je veux dire, comme tout le monde. Comme tout le monde. Les mêmes pensées, la même conception de la vie, la même représentation mentale, pour utiliser l'expression que j'avais prononcée hier. Donc, comme tout le monde, selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Il y a des puissances maléfiques. Et ici, ils disent qu'ils sont la puissance de l'air. Pourquoi de l'air ? J'aime beaucoup la traduction d'une Bible qui dit que ce sont des puissances qui s'interposent entre ciel et terre. C'est pour ça que c'est l'air. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Et ce sont des puissances qui essaient de s'interposer dans l'air, en quelque sorte, entre le ciel et la terre. C'est une façon de le comprendre qui me plaît. En tout cas, ces puissances sont bien là, et on le voit bien parce que dès que l'on part de Jésus, il y a une levée de bouclier, comme dit, il y a un refus viscéral de l'Évangile, et on ne sait pas pourquoi. Il faut que le Saint-Esprit parle dans les cœurs pour amener les gens à dépasser cette rébellion qui caractérise la troisième expression du verset 2. C'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les êtres humains sont rebelles. Les êtres humains ont déclaré l'indépendance unilatérale vis-à-vis de Dieu. Dieu voulait une relation. Les êtres humains disent non. Et à cause de cela, au verset 3, on voit que notre corps et notre pensée, notre esprit, hein, notre corps et nos pensées nous poussaient à être rebelles. Et nous sommes donc des enfants de colère, ce qui veut dire, c'est une expression un peu hébraïque, des enfants sur lesquels repose la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est son opposition implacable au mal. Donc voilà la mauvaise nouvelle. Voilà la condition humaine. Les êtres humains ne connaissent pas Dieu, ils sont rebelles. Heureusement que, à plusieurs reprises dans la Bible, il y a un petit mot de quatre lettres au début du verset 4. Mais, Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, donc on voit la motivation de Dieu, il est miséricordieux. C'est quoi la miséricorde ? C'est que Dieu ne nous punit pas de la façon que l'on mérite. Il ne punit pas. Il est miséricordieux. Il nous aime à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, je l'ai dit tout à l'heure, il nous a rendus vivants. Il nous a rendus à la vie. Donc, nous pouvons devenir vivants à cause de l'amour de Dieu. Et comment il nous a rendus vivants ? Avec Christ. Parce que Jésus a vaincu la mort, il est mort sur une croix, il est enseveli, mis dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité et revenu à la mort, à la vie. De mort qu'il était, il est devenu vivant. Et en lui, solidaire avec lui, nous pouvons aussi avoir la vie. Donc il ne s'agit pas d'une réforme dans notre vie. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, comme au 1er janvier, je vais prendre de bonnes résolutions, je vais vivre autrement cette année. Ce n'est pas une réforme, c'est une nouvelle vie qui commence. Et donc, en Jésus-Christ, nous sommes solidaires avec lui. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait même asseoir ensemble dans les lieux célestes. Bon, déjà, nous sommes, dans ce sens, auprès de Dieu au ciel. Déjà. Bon. Philippiens 3 dit, c'est parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore auprès de Dieu. Mais c'est qui ? Nous sommes sur cette terre, les citoyens des cieux. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai montré mon deuxième passeport. En premier, je n'ai pas montré. Mon premier, c'est citoyen du ciel. Mon deuxième, c'est France. Donc, ma vraie citoyenneté en tant que chrétien, c'est auprès de Dieu. Citoyen du royaume des cieux. Et pourquoi Dieu a fait cela ? Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par sa grâce, c'est-à-dire tout ce que nous ne méritons pas, il veut montrer dans les siècles à venir, donc éternellement, à la fois pour nous, mais actuellement même pour les dominations, les autorités, on l'a vu l'autre jour, qu'il est riche en bonté, en miséricorde et en grâce envers nous. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes rebelles et pécheurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous pardonne par sa grâce. Et il insiste, il avait déjà dit, une petite parenthèse au verset 5, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Puis il revient au verset 8 pour dire la même chose. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc la grâce, c'est qui nous donne tout ce que nous ne méritons pas. Quelle est la différence entre la miséricorde et la grâce ? C'est facile, mais il faut s'accrocher. La miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Et la grâce, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. Je dis, il fallait s'accrocher. Donc, la miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous méritons le châtiment, la punition et la mort. Et dans sa miséricorde, il ne les donne pas. Mais par la grâce, non seulement il ne donne pas ce que nous méritons, mais il nous donne ce que nous ne méritons pas. La vie éternelle, le pardon, la relation avec lui. C'est extraordinaire. Alors il dit, déjà c'est énorme que Dieu ne nous punit pas, mais qu'il nous donne la vie et la relation avec lui pour l'éternité. Voilà, on est dans un monde extraordinaire de bonté, d'amour éternel de sa part. Alors, nous sommes donc sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ça veut dire quoi ? Il faut simplement l'accepter. La foi n'est pas une œuvre. Ce n'est pas nous qui disons, oh, finalement, je vais faire plaisir à Dieu. Oui, non. C'est le salut. C'est être sauvé du danger. C'est comme si, par exemple, on traverse, mettons, le Saint-Laurent, et puis on tombe du bateau. Et puis, on ne sait pas très bien nager. Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie une bouée de sauvetage pour vous sauver. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Rien, sauf s'accrocher à cette bouée pour être sauvé. Et c'est ça que le Seigneur nous fait. Il dit, accrochez-vous à cette offre de salut, et c'est tout. Et il insiste, pour que l'on comprenne bien, à la deuxième partie du verset 8, « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il donne un cadeau. Un don, un cadeau. Si par exemple, c'est votre anniversaire, et on vient vous offrir quelque chose, vous ne mettez pas la main à la poche pour dire « je vois combien ?» Ça n'a pas de sens. Un cadeau, un cadeau. on le reçoit. C'est tout. Donc, c'est le don de Dieu, et ce n'est pas par nos œuvres. Donc, on ne peut pas le mériter. On ne peut pas dire, mais Seigneur, tu vois, regardez ce carré. Dans ce carnet, j'ai marqué tout le bien que j'ai fait. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi ? Afin que personne ne se glorifie. Donc, si on pense qu'on est sauvé parce que l'on a fait soi-même, on va être orgueilleux. Et l'orgueil est un péché, donc on n'est pas sauvé. C'est logique. Donc, ce n'est pas la grâce. C'est tout. Donc, voilà la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes pécheurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le salut. C'est un peu comme lorsqu'on va chez le médecin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait diagnostic, il dit « Ah, vous avez telle ou telle maladie ». La bonne nouvelle, il dit « Il y a des médicaments ». La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a la mort spirituelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la vie spirituelle. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, dans ce camp, je ne connais pas tout le monde ici, qui n'est pas encore chrétien. Mais si c'est le cas, accrochez-vous à cette grâce. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. On n'est pas obligé d'attendre. C'est Dieu attend simplement qu'on dise oui et qu'on accepte par la foi ce cadeau de la vie éternelle qui est en même temps relation avec lui. Donc voilà la condition humaine, analyse et réponse. Donc, on est revenu au verset 10. Car nous sommes son chef-d'œuvre ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si les œuvres, les bonnes œuvres ne servent à rien du tout pour être sauvés, une fois qu'on est sauvé, c'est pour que l'on vive autrement et pour que l'on fasse les choses que Dieu veut. Donc, il a préparé des bonnes choses pour nous. Je ne sais pas si l'expression existe au Québec, mais en France, on dit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, ça existe. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que les œuvres ne sont pas avant le salut. Les œuvres, c'est après le salut. Et ce n'est jamais, je dirais, pour être sauvé. C'est simplement parce que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas parce qu'on fait les bonnes choses qu'on est plus sauvé. Ce n'est pas le cas. Mais quelles sont ces bonnes œuvres? Bon, il y a plein de choses que l'on pourrait mentionner, et dans la suite des lettres aux Éphésiens, Paul passe en revue un bon nombre de choses. Mais dans la suite de ce chapitre, il part surtout d'une chose. Et la première bonne œuvre, c'est que nous sommes la nouvelle humanité, l'Église locale. Par celle de l'Église universelle, nous sommes la nouvelle humanité que Dieu a créée. Et donc, quelle est cette nouvelle humanité? C'est une humanité qui est composée, comme on a vu hier, de personnes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, etc. Et c'est toute la différence par rapport à l'ancienne alliance, qui était une alliance avec le peuple d'Israël. Maintenant, c'est pour tout le monde. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que les païens, les goyim, comme les juifs les appellent, les goyim, les peuples, les nations, les gentils. Bon, ce mot-là, c'est difficile en français parce que gentil veut dire autre chose. Mais vous voyez, il y a le mot « gens » dedans. Hein, les peuples, les gens, les goyim et les juifs, c'était deux mondes différents. Deux mondes. Quand on pense qu'à Éphèse, par exemple, quand Paul était là, il y avait le syndicat des orfèvres qui a fait toute une grande manifestation. Ils ont crié dans l'amphithéâtre et tout ça pendant des heures. Pourquoi ? Parce qu'ils fabriquaient des idoles, des petites statuettes. Et ils avaient peur que Paul discrédite leur travail. Si les gens se convertissent, ils ne vont plus acheter cela. Donc, ils ont dit, « Ah, notre déesse est très grande. » Bon, enfin, il fallait lire entre lignes, ça veut dire, « On ne va pas gagner autant d'argent. » C'est ça le sens, en fait. Ils ont fait cette manifestation. C'était l'égoïme. Il y avait certainement aussi, c'est par ailleurs des Juifs dans cette ville. D'ailleurs, Paul, quand il allait dans une ville, il allait tout de suite chez les Juifs qui attendaient le Messie. Il annonçait que Jésus était le Messie. Et ces Juifs formaient un petit peu le socle de l'Église parce qu'au moins, ils connaissaient les écrits de l'Ancien Testament et que les Goïms ne connaissaient rien du tout. Donc, au moins, ils ont pu enseigner un certain nombre de choses sur l'histoire du salut, sur les 10 commandements, enfin, tout ça. Et donc, il fallait que ces deux personnes, ces deux groupes de personnes, vivent ensemble au sein de la même église locale à Éphèse. Et c'était là, donc, la première bonne œuvre qui est mentionnée dans la suite de ce chapitre. Alors, lisons la suite. Je lis à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens, goyim, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, petit mot de quatre lettres, mais, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est donc venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, on a vu entre les versets 11 et 12 la situation des païens. Incirconcis. Pour les Juifs, c'était nécessaire. C'était le signe qu'ils étaient dans l'alliance, l'ancienne alliance, comme on dit maintenant, mais l'alliance entre Dieu et son peuple. Ils étaient sans Christ. Ils étaient séparés d'Israël, sans droit de cité en Israël. Ils étaient étrangers aux promesses de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu. C'est le cas de beaucoup de gens autour de nous. Mais en Jésus, ces personnes éloignées ont été rapprochées par le sang de Christ. Le sang de Christ, parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Et on appelle ça en théologie la substitution pénale, c'est-à-dire que Jésus a porté lui-même le châtiment que nous méritons. Et s'il y a une doctrine qui est centrale, déjà au GBU, mais centrale, je dirais, dans le monde évangélique, c'est ça. Jésus est mort à ma place, à notre place. Il s'est substitué à nous. Donc c'est pour ça qu'on dit substitution pénale, parce qu'il a pris la peine que nous méritons. Et dans, il y a beaucoup de pratiquants, même ceux qui se disent chrétiens, qui ne croient pas à cela. Il y a la théologie libérale qui va la refuser. Mais c'est le deuxième signe distinctif doctrinalement des chrétiens évangéliques, la première étant l'autorité de la parole, et le deuxième, la possibilité d'être réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus. Donc, par ce sang, les goyim ont été rapprochés, et le verset 14 dit que j'ai notre paix, parce qu'il a... Nous avons la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres. Parce que des deux, donc des juifs et des goyim, verset 14, il n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur qui les séparait, qu'il appelle l'inimitié, mais on pourrait dire la haine. Ça va plus loin que... L'inimitié, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, mais ça veut dire la haine entre les juifs et les goyim. Quelle était la cause de cette haine? Bon, fondamentalement, et on va voir par la suite pourquoi je le dis, ça tournait autour de la loi. Parce que les Juifs voulaient que tout soit fait selon la loi de Dieu. Et certains, je dirais les pharisiens, au cours des siècles, avaient tellement peur que de désobéir à la loi, qu'ils ont fait tout un tas de petites lois autour pour essayer de protéger la loi, comme ils disaient, mettre une haie autour de la loi. Donc, par exemple, je donne un petit exemple pour que l'on comprenne. Le commandement dit que tu ne travailleras pas le sabbat. Alors, les pharisiens commencent à dire, le travail, c'est quoi? C'est un effort. Bon, ça veut dire que quand on marche, c'est un effort. Donc, on ne peut pas marcher plus de X kilomètres, autrement, ça devient le travail. Et c'est pour ça qu'ils avaient dit, voilà, on peut, je ne me souviens plus du nombre de kilomètres, c'est pour ça que j'ai mis X. Mais dans les Écritures, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, on dit à un certain moment que Béthanie, donc le village où Jésus a passé la nuit, donc près de Jérusalem, était à une distance d'une marche de sabbat de Jérusalem. Alors, après, le problème, c'est que, ah oui, mais mes beaux-parents, ils habitent plus loin que ça. Qu'est-ce que je vais faire de sabbat? Je veux les voir. Et les pharisiens réfléchissent, ils disent, voilà, qu'est-ce qui définit une maison? C'est là où on garde son sel. Donc, si la veille du sabbat, on fait une marche de sabbat, et on laisse un peu de ce sel de sa maison, c'est comme si on arrivait à une autre maison qui t'appartienne, donc on peut de nouveau faire les X kilomètres pour aller plus loin. Et il y a plein, vous pouvez chercher, il y a plein de choses comme ça. Et Jésus n'aimait pas ça. Oh, Jésus n'aimait pas ce légalisme. Mais cette loi, que ce soit le fondement de la loi ou que ce soit toutes ces lois autour, énerver les goyim, les païens. Mais pourquoi ils ne peuvent pas être comme nous? Et pour les juifs, ils pensaient que ces goyim, ces païens, ils vivaient n'importe comment, et c'est vraiment pas bien. Mais cette loi aussi était un fardeau pour les juifs. Et Pierre, pendant le concile de Jérusalem, dans Acte 15, il a dit, cette loi que ni nous, nos pères, ont pu supporter. Ce n'est pas possible de le vivre, en fait. Donc, il reconnaît que cette loi était invivable. On ne pouvait pas vivre selon la loi. On n'arrive pas. Donc, même pour les Juifs, c'était problématique. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Je reviens donc au verset 12. Il a renversé le mur de séparation, la haine, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc ça veut dire que la loi a été mise de côté en ce qui concerne la possibilité de connaître Dieu. Que ce soit pour les païens ou que ce soit pour les juifs, ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé. Et Paul a pu écrire d'ailleurs dans son épître aux Galates, sous chapitre 3, si vous voulez noter le verset 24, que puisqu'on n'arrive pas à obéir à la loi est comme un pédagogue, ou un enseignant, on va dire, qui conduit la personne à Christ. Parce que quand on voit qu'on ne peut pas obéir à la loi, il n'y a qu'une seule solution, c'est de tourner vers Jésus. Quand on se tourne vers lui, donc la loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Okay? Ça c'est Galates 3, les versets 24. Alors, donc, la loi n'est pas le moyen du salut, mais c'est la foi, c'est le don de Dieu. Donc, et là on arrive à ce verset clé avec lequel j'ai commencé, Dieu a voulu créer donc en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. C'est l'homme dans le sens collectif. Un seul homme nouveau, c'est la nouvelle humanité. Et la Bible du Sommeur le dit, et d'autres traductions. Une seule nouvelle humanité en établissant la paix, en réconciliant avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant la haine. Et c'est pour cela que cette nouvelle humanité est tellement extraordinaire. J'aime bien raconter au niveau du GBU qu'en Israël, il y a un seul GBU où il y a à la fois les Juifs et les Arabes. Alors que, par ailleurs, il y a cette haine quelque part entre ces peuples. Et en Israël, un seul GBU, et ils ont mis dans leur statut que si le président est juif, le directeur est arabe, ou si le directeur est juif, le président est arabe. Donc comme ça, il y a toujours les deux côtés au sein du GBU. C'est beau de voir cela, parce qu'il y a cette nouvelle humanité. Et là où partout dans le monde il y a des guerres ethniques, peu ridicules des fois, parce qu'en fait on n'est pas si différents que ça, mais que ça a existé, ça a toujours existé. Mais en Christ, nous sommes réconciliés et nous vivons ensemble la nouvelle humanité. Et ça, c'est la première grande chose de ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Le verset 17, en citant d'ailleurs Ésaïe, c'est Ésaïe 57, dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc c'était les païens, et la paix à ceux qui étaient près, parce que les Juifs étaient plus proches, parce qu'ils attendaient le Messie, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Par Jésus, il est, je ne sais pas si on utilise cette expression au Québec, fournisseur d'accès. Non, vous l'avez dit, non. Donc, pour Internet, on dit ça. Donc, ça ne marche pas. Mais en France, on dit, parce que si on prend Internet, on prend contact avec un fournisseur d'accès. Donc, Jésus, le fournisseur d'accès. Vous comprenez ce que je veux dire? En France, on comprend bien quand je dis ça. Au Père. Qu'est-ce que vous dites alors ici? Oui?
La compagnie d'Internet.
Oui. Oui, c'est ça, c'est la compagnie d'Internet. Mais nous, on appelle ça un fournisseur d'accès à Internet.
Provider,
voilà. Internet provider. Mais ça, c'est... Ça, c'est parler une langue barbare, donc on va rester avec fournisseur d'accès. Voilà. En tout cas, voilà, vous comprenez que parce que c'est Jésus que nous avons accès les uns et les autres auprès du Père. Et je termine donc avec les derniers versets, qui sont trois petites images pour que l'on comprenne bien qui nous sommes, les chrétiens. D'abord, verset 19, nous faisons partie de la famille, d'une même famille. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais gens de la maison de Dieu. Quand on comprend maison, il faut comprendre que dans l'Antiquité, la maison, c'était le foyer. Ce n'est pas le bâtiment, hein, c'était la famille. Donc voilà, on fait partie de la même famille. Vous êtes concitoyens des saints, on fait partie du même, on est concitoyens, on fait partie du même royaume. Et nous sommes le temple de Dieu, parce que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, donc ça c'est leur enseignement et le fondement. Jésus est la pierre angulaire, donc à partir de là que l'on va construire la maison avec justesse, et en Jésus, tout l'édifice va s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur, pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est extraordinaire. La même famille, concitoyens, et même la demeure de Dieu sur cette terre. Voilà donc notre privilège en tant que chrétien. Et pour boucler la boucle, pour revenir un petit peu à notre sujet, je dis une chose qui est évidente, mais je le dis quand même. Le problème en français, c'est qu'on a le tutoiement et le vouvoiement. Et ici, quand il dit « vous », ce n'est pas Paul qui est poli. Il est au pluriel. « Vous, ensemble ». Donc, c'est l'Église. Et cette Église prend corps dans l'Église locale. Donc, c'est là où on va vivre ce genre de réconciliation. On va former une même famille. On va former un temple vivant pour le Seigneur, même si on l'est chacun individuellement. Mais c'est bien à vous du pluriel. Donc, à la fin de ce chapitre, soit on dit, avec un mot biblique, « Alléluia, Amen », ou on dit en français courant « Waouh !» Mais ça revient au même. Prions. Seigneur, merci pour ce privilège de t'appartenir. Nous reconnaissons que nous ne le méritons pas. Mais tu es venu nous chercher là où nous étions pour nous convaincre de notre péché, pour que nous puissions confesser que nous ne sommes pas dignes, mais que nous faisons confiance à toi et à tes promesses de sauver ceux qui ne le sont pas. Merci Seigneur, parce que la plupart d'entre nous avons ce témoignage que nous t'appartenons. Merci également parce que nous faisons partie de plusieurs églises locales et nous voulons penser à elles ce matin, que tu bénisses toutes ces assemblées, toutes ces églises qui cherchent à vivre pour toi dans un monde qui rend cette tâche extrêmement difficile parce que tout s'oppose à nous. Nous qui voulons te glorifier par notre bouche, par notre vie individuelle, par notre vie collective. Seigneur, bénis nos assemblées, bénis nos églises et je te remets chacun ici, que chacun puisse bien vivre sa vie d'église à ta gloire, en te remerciant chaque jour pour le fait que nous ne sommes pas seuls, mais que nous avons beaucoup de frères et sœurs sur qui nous pouvons compter. Merci Seigneur pour ta bonté et ton amour envers nous. Au nom de Jésus. Amen.